Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme.
C'est Nicolas, bonjour, bienvenue dans votre émission les enfants. Et oui, salut les kids, c'est votre activité du mercredi sur Radio G. Nous sommes le 11 décembre 2024 et il reste 14 jours avant Noël. Avez-vous fait votre sapin les enfants? Je suis sûr que c'est bien décoré chez vous. Certains ont sûrement fabriqué leurs décorations et je vous félicite. Quelle joie de fabriquer un objet et de voir le résultat, vous ne trouvez pas? Je vois dans les rues d'Angers plein de guirlandes scintillantes et je trouve ça beau. D'ailleurs, le Père Noël est venu récupérer la clé de la ville pour démarrer la saison des fêtes. D'ici à ce qu'il passe vous voir, je vous propose le programme du jour, avec toujours de la lecture. On retrouvera Père Castor et ses fameuses histoires qui ont bercé mon enfance. Il y aura aussi un nouveau conte africain, extrait du livre « 1000 ans de contes » que vous avez découvert il y a 2 semaines. Puis, une histoire en attendant Noël, un peu comme un début d'hiver. Une histoire souvent froide, mais chaleureuse, à écouter près de la cheminée. Et oui les enfants, c'est bientôt l'hiver. D'ailleurs, savez-vous dire « hiver » en anglais ? On verra aujourd'hui si c'est votre nouveau mot d'anglais. Puis, le Labo des Sciences vous expliquera pourquoi il fait froid l'hiver et chaud l'été. Je suis donc ravi de passer les 30 prochaines minutes à vous partager tout ça, bien au chaud, dans le Studio G. Let's go! Alors les enfants, savez-vous dire « hiver » en anglais ? Eh bien c'est « winter ». Mais ce n'est pas votre mot d'anglais du jour. Celui-là, c'est en bonus, un petit cadeau avant l'heure. Voici donc maintenant le vrai mot d'anglais pour aujourd'hui.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Et le mot du jour, écoutez bien, c'est tree. 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 T-R-E-E. Ça veut dire « arbre ». Il s'écrit en 4 lettres. Le T, le R, le E et encore le E. Tree. Peut-être connaissez-vous le Christmas tree, qui est l'arbre de Noël ou le sapin de Noël. Tree est souvent utilisé avec des mots de fruits comme « apple tree », qui est le pommier, ou « lemon tree », qui est le citronnier. Il est donc très facile à utiliser. Même les sapins et toute cette famille sont appelés « pine tree ». Ce sont les arbres à pin, ceux qui font les pommes de pin. Voilà les enfants, vous avez encore appris un nouveau mot d'anglais qui vous servira, j'en suis sûr. On continue l'émission, c'est l'heure de la première lecture. J'ouvre le livre des merveilles du Père Castor pour vous raconter l'histoire du dragon de Cracovie, un conte venu tout droit de Pologne. Mettez-vous à l'aise et fermez les yeux.
La grande.
Au bord de la rivière Wisła, en Pologne, sur le flanc d'une haute montagne, s'ouvre une grotte profonde et obscure. On dit qu'autrefois, cette grotte était habitée par le plus fort et le plus terrible des dragons. Un dragon énorme à l'appétit vorace qui ne dédaignait aucune nourriture, ni les poules, ni les brebis, ni les chevaux, ni même les hommes. Le jour, l'horrible bête semait la terreur dans les champs et dans les rues. La nuit, ses ronflements faisaient trembler la montagne et empêchaient de dormir les habitants du voisinage. Tous, hommes et animaux, vivaient dans la crainte et l'effroi. La tristesse et le malheur avaient envahi les cœurs. Les habitants, qui n'en pouvaient plus, allèrent trouver leur roi. « Ce dragon nous terrorise !» se plaignirent les paysans. « Nous n'osons plus aller travailler dans nos champs. Nos troupeaux sont massacrés !» reprirent les bergers. « Nos chiens sont impuissants devant ce monstre. Il faut absolument le tuer. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants jouer dehors. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Aidez-nous !» Le roi les écouta tous attentivement, hocha la tête puis annonça solennellement « Le temps est venu d'aller combattre le dragon. Je promets une splendide récompense à celui qui réussira à débarrasser le pays de ce cracheur de feu. » Un noble chevalier s'avança et se déclara prêt à combattre la bête. Il revêtit son armure la plus solide, prit sa lance la plus longue et enfourcha son cheval le plus rapide. Il n'était même pas arrivé au sommet de la montagne que le dragon souffla un jet de flamme sur le courageux jeune homme qui roula au fond d'un gouffre. Tour à tour, les hommes les plus valeureux du royaume affrontèrent en vain la bête horrible. Aucune arme ne réussit à atteindre le dragon. Les flèches glissaient sur sa peau, les épées se tordaient, les lances se cassaient comme des allumettes entre ses dents. Beaucoup de guerriers perdirent la vie. Les habitants commençaient à désespérer quand, un matin, un jeune berger prénommé Crac demanda audience au roi. Les courtisans, stupéfaits, virent s'avancer vers le trône un jeune garçon pauvrement vêtu. Lorsque Crac expliqua au roi qu'il voulait combattre le dragon, tous éclatèrent de rire. « Comment oses-tu prétendre réussir là où tant d'hommes courageux ont échoué ? Où sont ses armes, son casque, où est son cheval ?»« Sire, dit le jeune berger sans se démonter, faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. » « Laissons-lui tenter sa chance, » décida le roi. « S'il parvient à nous débarrasser du dragon, je lui donnerai la main de la princesse, ma fille. » Le jeune Crac s'inclina profondément devant le roi et sortit. De retour chez lui, Crac prit des braises chaudes dans l'âtre et la peau d'un mouton qui venait de mourir. Puis il se dirigea vers la montagne. Arrivé devant la grotte du dragon, il sortit la peau de mouton de son sac et y fourra les braises encore fumantes. Vite, il déposa le mouton à l'entrée et alla se cacher derrière un rocher. Le dragon ne tarda pas à se réveiller. Tenaillé par une énorme faim, il sortit de sa grotte avec un terrible grognement. Dès qu'il vit le mouton, il se jeta sur lui et l'avala d'une bouchée. Mais aussitôt, une terrible douleur lui brûla le ventre. Hurlant, soufflant et crachant, le dragon se précipita vers la rivière. Ouvrant grand sa gueule, l'horrible bête but sans s'arrêter pendant des heures, dans l'espoir d'éteindre l'incendie qui lui dévorait les entrailles. Toute l'eau que le dragon avait engloutie, chauffée par les braises ardentes, se mit à bouillir. La vapeur lui dilata le ventre qui, avec un énorme « bang !», éclata comme un ballon. Alors le jeune Crac sortit de sa cachette et appela les habitants de la ville. Hommes, femmes et enfants acclamèrent le jeune berger, l'aidèrent à tirer la dépouille du dragon hors de l'eau et dansèrent autour une joyeuse farandole. Le roi vint féliciter Crac pour son intelligence et son courage et, comme promis, lui accorda la main de sa fille. C'est ainsi que Crac, le jeune berger, débarrassa le pays du dragon et épousa la fille du roi. Quelques années plus tard, il devint roi à son tour. Il n'oublia pas les malheurs qu'avait causés le dragon et, pour mettre pour toujours ses sujets à l'abri, il entoura la ville de puissantes murailles. C'est ainsi qu'au bord de la rivière Wisła en Pologne se dresse aujourd'hui une superbe cité aux remparts solides. Elle porte le nom de Cracovie en souvenir du jeune Crac qui sauva ses habitants. Fin de l'histoire. On revient à Angers après cette légende polonaise. C'est marrant, dans cette histoire, Crac le héros utilise un phénomène scientifique pour se débarrasser du dragon grâce à l'eau bouillante. Très malin ce petit berger. Ce qui nous amène aujourd'hui vers le labo des sciences. Vous allez pouvoir répondre à une question. Pourquoi il fait chaud l'été et froid l'hiver ?
Approchez les enfants. Bienvenue dans le laboratoire de Salut les Kids. Est-ce que vous êtes prêts à percer les mystères de la science ?
Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il fait chaud en été et froid en hiver. Vous avez sûrement remarqué que les saisons changent, et avec elles, la température aussi. Mais pourquoi ? D'abord, imaginez que la Terre est comme une grande balle qui tourne autour du Soleil. La Terre n'est pas parfaitement droite ou ronde. Elle est un peu inclinée, comme si elle penchait légèrement sur le côté. Cette inclinaison est très importante pour comprendre les saisons. En été, l'hémisphère, qui est la moitié de la Terre où vous vivez, est inclinée vers le Soleil. Cela veut dire que les rayons du Soleil frappent cette partie de la Terre plus directement et plus fort, ce qui réchauffe l'air et le sol. C'est pour cela qu'il fait plus chaud en été. Pensez à la différence entre la lumière d'une lampe de poche qui est droite et celle qui est projetée sous un angle. Quand la lumière est droite, elle chauffe plus. En revanche, en hiver, l'hémisphère où vous êtes est incliné plus loin du soleil. Les rayons arrivent alors plus légèrement et leur chaleur est répartie sur une plus grande surface. Cela signifie que la Terre reçoit moins de chaleur et c'est pour cela qu'il fait froid. En plus, comme la Terre tourne autour du soleil pendant toute l'année, chaque région de la Terre reçoit plus ou moins de lumière et de chaleur selon sa position. C'est pour cela que, lorsque c'est l'hiver à un endroit, c'est l'été de l'autre côté de la planète. Par exemple, ici à Angers, en décembre, c'est l'hiver. Mais en Australie, à Sydney, c'est l'été, car c'est de l'autre côté de la planète, dans l'autre hémisphère. Alors même si la Terre tourne tout le temps autour du Soleil, l'inclinaison de notre planète fait que certaines parties reçoivent plus de chaleur à certains moments de l'année. Et c'est cela qui crée les saisons. Voilà pourquoi l'été est chaud et l'hiver est froid. C'est grâce à l'inclinaison de la Terre et à la manière dont elle tourne autour du Soleil. C'est cool ça, non ? Et bien voilà les enfants, vous en savez un peu plus sur les saisons. Et comme on est au mois de décembre, vous pouvez observer le soleil qui se trouve très bas la journée. On est d'ailleurs très proche du jour le plus court de l'année, celui où le soleil se montre le moins longtemps. Ça s'appelle l'équinoxe et ce sera le 22 décembre, 3 jours avant Noël. C'est là que l'hiver commence car le soleil change d'hémisphère. À partir de là, les jours vont commencer à rallonger. C'est curieux, n'est-ce pas les enfants ? Allez, on continue l'émission ensemble avec la lecture d'un nouveau conte africain qui s'appelle « La légende du peuple des sables ». C'est parti.
La deuxième histoire.
Il y a longtemps, très longtemps, un peuple de cultivateurs quitta la région centrale du Sénégal à la recherche d'une terre promise. La sécheresse et la famine les avaient chassés de leur territoire sablonneux. Ils marchèrent longtemps en direction du soleil couchant. Ils avaient souvent entendu dire, dans leur tradition, que là où le soleil se couche tous les soirs, la terre était différente. Après avoir voyagé durant des mois et des mois, le peuple arriva un jour en bas d'une colline. La contrée ne ressemblait pas du tout à leur pays d'origine. Au loin, ils entendirent un bruit qui ressemblait au roulement des tambours de guerre. Les plus initiés de la connaissance des secrets de la nature s'approchèrent timidement et leur chef cria « Qui gronde là-bas ? Est-ce toi, Denou, dieu du tonnerre et compagnon de la pluie ? Qu'attends-tu de mon peuple ? Nous sommes venus de loin. La faim et la soif nous ont obligés à quitter notre terre natale. Sois généreux avec nous !» répètent les autres. Dans cette partie du monde, la nuit s'installait très vite. Le maître des initiés déclara « Nous sommes arrivés au bout de notre voyage. Ici réside le tombeau du soleil. Nous allons dormir sur place, les uns serrés contre les autres pour nous réchauffer et nous protéger. » Le lendemain, le guide réveilla un à un quelques compagnons. Ils se concertèrent discrètement pendant que le peuple dormait. Ils décidèrent enfin de percer le mystère des battements de tambour. Ils gravirent lentement la colline et avancèrent avec précaution. À quelques mètres de la crête, le chef s'avança tout seul jusqu'à la limite extrême, en psalmodiant des prières destinées au dieu de la pluie. Bientôt, il s'arrêta et cria très fort « Ô peuple, viens admirer, c'est ici que finit la terre et que commencent les eaux. Ô peuple, viens admirer !» répétèrent les accompagnants. La distance qui les séparait de la population était grande, leur voix ne pouvait pas être entendue. C'est alors que le griot sortit de son sac une corne de buffle. Il joua une mélodie lyrique dont les notes touchèrent le peuple. Aussitôt, les hommes, les femmes et les enfants se ruèrent à l'assaut de la colline. Tout le monde se hissa à son sommet pour admirer la limite du monde terrestre. Le guide annonça « C'est ici que commence le royaume des eaux. Nul homme ne peut le franchir. Nous sommes donc parvenus au terme de notre exil. » Ils aperçurent au loin de la plage. Les gens descendirent de la colline et se rendirent vers ce territoire. C'est à cet instant que le grand maître donna le nom d'une divinité à l'océan. Gouedj. N'ayez pas peur, enfants des sables. Je ne vais pas prier le dieu de la pluie et des eaux pour notre protection à tous. Que la paix soit avec nous, répéta le peuple en chœur. Le chef s'avança vers le rivage. Tout le monde retint son souffle. Quand il arriva à la limite des vagues, il se prosterna face à la mer. Il resta dans cette attitude un long moment. Soudain, il se releva et fit demi-tour. Le dieu de ce domaine nous est favorable, cria la foule, car les eaux ne l'ont pas emporté. Le chef annonça que la mer était salée et que d'étranges êtres vivaient en son sein. Le soir venu, ils regardèrent le soleil descendre silencieusement jusqu'à disparaître complètement. Par précaution, ils décidèrent de se retirer de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. « Installons-nous ici, » dit le chef. Ils creusèrent des puits et construisirent des cases. Dans certains endroits, l'eau était stagnante et des plantes à tubercules poussaient. Elles furent utilisées comme nourriture. Au bord de l'océan, les nouveaux venus avaient remarqué des petits êtres bizarres sans bras ni jambes qui sautillaient dans les vagues. Ils se réunirent pour savoir ce qu'il convenait de faire avec cette créature au corps argenté. Après de longues méditations, le chef déclara « Prenez et mangez ces dons que Gouedj, le dieu de la mer, nous a offerts. Régalons-nous » dirent en chœur les autres. La population se roua sur cette manne dont une partie se retrouva directement dans les marmites. Le reste fut séché sur des braises pour la conservation. Tout le monde se délecta et pour la première fois, les fils des sables goûtèrent aux produits de la mer. Les autres jours, ils attendirent en vain les offrandes du Gwetch. Les poissons fuyaient au large et étaient désormais insaisissables. Il fallait trouver une solution pour les capturer. Les hommes eurent l'idée d'abattre des arbres et de creuser leurs troncs pour s'y installer et flotter. Les premières tentatives échouèrent. Les hommes furent projetés avec leurs embarcations sur le rivage. Cependant, ils ne se découragèrent pas. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à faire usage de la pagaie. La première génération de pêcheurs était née. La vie sociale s'organisa. Les totems de leur pays d'origine furent mêlés à de nouveaux rites consacrés à Gwetch, le dieu de la mer. Les descendants des anciens maîtres de la parole devinrent maîtres à leur tour et dirigèrent les débats. Les mariages n'étaient plus seulement conditionnés par la vaillance et l'endurance aux travaux des champs, mais aussi et surtout par le courage face aux risques en mer. À cette première génération de pêcheurs vinrent s'ajouter plus tard d'autres peuples venus du sud et qui parlaient une autre langue. L'arrivée de ces nouveaux groupes n'était pas toujours acceptée par les premiers occupants. Il y eut des conflits et des rivalités, mais avec le temps, tous finirent par se comprendre. Les chefs et les gardiens des cultes étaient cependant recrutés uniquement chez les premiers occupants. Quelques années plus tard, on vit naître une nation homogène parlant la même langue, enrichie de dialectes différents. Les hommes cultivaient pendant la saison des pluies, mais l'essentiel de leur activité était la pêche. Ils payaient chaque année à la mer un lourd tribut en vies humaines. Les femmes fumaient le poisson, elles élevaient les enfants qui, à leur tour, devenaient des pêcheurs chevronnés. Les jours de tempête, elles pleuraient devant les vagues en invoquant les dieux de la mer et les fétiches ancestraux. Fin de l'histoire. Allez, c'est le moment d'une petite pause, le temps d'aller chercher un gâteau ou de faire une pause pipi. Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas, un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture. Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids. On prend le calendrier maintenant pour l'agenda avec les rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Tout d'abord, au musée du Bon Pasteur à Angers. Retrouvez une exposition de crèches du monde entier avec 130 modèles à observer pour découvrir, imaginer, voyager et peut-être même découvrir de nouvelles idées créatives pour votre décoration sous le sapin. C'est tous les week-ends jusqu'à fin janvier de 14h à 17h. Une autre date à ne pas rater ce samedi à 10h30 au Centre culturel Jean Carmet de Muré-Régnier pour les 6-12 ans, une pièce de théâtre qui s'appelle « L'enfant et la lune ». Sélénia est une enfant qui rêve, qui s'émerveille du monde comme tous les enfants. Mais Sélénia n'est pas comme les autres. Son corps ne peut pas supporter le soleil. Dans ce théâtre musical, la mélodie des mots aborde avec douceur la différence causée par la maladie, mais aussi le besoin irrésistible de chaque enfant de grandir, de dépasser les limites. On y parle d'amour, d'épanouissement et d'éclosion dans un univers coloré et magique par la compagnie La Syrinx de Pan. Entrée 5 euros, réservation en ligne sur le site du Centre culturel Jean Carmet. Voilà de quoi partir à l'aventure ce week-end. En attendant la fin de la semaine et la fin de la journée, voici une dernière histoire tirée d'un vieux livre de contes d'hiver. Elle s'appelle Prince.
Elliot. Tu crois que c'est la dernière histoire ?
Oui. Chut.
Tout le village l'appelle le prince. Il est le plus grand, il est le plus fort. Tout le monde parle du prince dans le village. Les papas qui boivent de la bière, les mamans qui attendent devant l'école, les enfants qui tirent leur luge. Tout le monde parle du prince. Ce n'est pas un prince avec une couronne, il est le prince parce qu'il est le plus fort. Devant tout le monde, il montre ses bras, sa force, et il rit très fort. Mais quand le prince est tout seul, il pleure. Il est triste parce que ses poings sont fermés. Il ne peut jamais ouvrir ses poings qui restent fermés comme des cailloux. Avec ses poings toujours fermés, le prince ne peut pas donner la main. Il ne peut pas faire de la peinture ni offrir un cadeau. avec ses deux poings fermés, il tape, il frappe, il cogne sur les portes, sur les murs, sur les volets, comme les grands coups de vent. Cette nuit-là, quelqu'un arrive en courant, tout essoufflé. « Venez, venez, venez tous, venez vite! Je vous annonce une bonne nouvelle, le prince de la paix vient d'arriver !» Cette nuit-là, le prince lui aussi a appris la nouvelle. « Comment ? Le prince, ici c'est moi !» Et le voilà qui se sauve avec ses poings fermés. Tout le village s'est levé, tout le village est sorti, tout le village se met en marche. Là-bas, une petite maison est allumée sous la neige. C'est une petite maison de rien du tout. Un petit enfant est là. Chut, c'est un tout nouveau-né. Il dort. Il est petit. Si petit. C'est le prince de la paix. Tout le village applaudit, rit et chante. En roulant ses grosses épaules, le prince arrive lui aussi. Il tient en avant ses deux poings fermés. Il s'en sert pour faire un passage. Tout le monde s'écarte devant lui. Et il n'y a plus personne entre lui et le petit enfant. Le prince est encore plus grand et l'enfant est encore plus petit. Un prince de la paix, ce petit bout de bébé. Allons donc, il est bien trop petit. Un prince, c'est grand et fort. Ici, c'est moi le plus grand et le plus fort. Et en même temps, le prince se rappelle ses deux poings fermés et il est tout triste à l'intérieur de lui. L'enfant le voit, l'enfant sourit, l'enfant ouvre ses petites mains et voilà que d'un seul coup, les poings fermés du prince se desserrent. Il s'ouvre comme des fleurs. Voilà le prince avec ses deux mains grandes ouvertes, deux mains toutes neuves, deux mains ouvertes pour donner la main, deux belles mains pour partager les cadeaux, pour ouvrir la porte et ouvrir les volets, pour peindre la couleur et pour faire des gâteaux, deux mains pour aimer. Alors le prince pleure, mais c'est parce qu'il est heureux et il se met à chanter. C'est vrai, c'est toi le prince, toi le petit enfant, c'est toi qui m'as rendu heureux. Et il se met à danser, avec ses mains toutes neuves, avec son cœur tout neuf. Fin de l'histoire. Oh les enfants, je vois qu'il nous reste assez de temps pour une dernière histoire, une histoire bonus. Alors, restez donc installés confortablement, j'ouvre le livre des contes d'hiver pour vous raconter l'histoire de Fariboulette et Rifouinfouin. C'est parti. Un jour, Fariboulette la sorcière part au marché vendre le lait de ses chèvres. Elle emmène Rifouinfouin avec elle, mais tout au long du chemin, Rifouinfouin ne pense qu'à s'amuser. Il lance des boules de neige sur les arbres pour les voir éclater. Il jette des pierres sur le verglas pour voir la glace se briser. Il saute d'un pied sur l'autre pour se réchauffer. Fariboulette s'énerve. « Rifouinfouin, si tu ne te dépêches pas, je te laisse. Regarde, je m'en vais. » Mais Rifouinfouin ne la regarde même pas. Alors Fariboulette, qui voit que le lait de ses chèvres gèle, sent monter en elle une grosse colère de sorcière. Elle hurle. « Mistral et Verdeglas, tant pis pour toi !» Et au tournant du chemin, elle disparaît. Quand Rifouinfouin s'en aperçoit, il est trop tard. Il a beau courir, il ne voit plus Fariboulette. Alors il se met à pleurer. Une vieille dame l'aperçoit. Elle s'apitoie. Oh, le pauvre enfant abandonné! Elle le prend par la main. Ça tombe bien? J'ai besoin d'un petit comme toi. Rifouinfouin la suit, car il a très faim. Une fois chez elle, la vieille dame l'appelle Désirée, comme l'enfant qu'elle avait autrefois. Rifouinfouin n'est pas d'accord. « Désiré, c'est bête comme nom. Je m'appelle Rifouinfouin. » Mais la vieille dame ne l'entend pas. Rifouinfouin mange de bon appétit, et quand la vieille dame tourne le dos, il s'en va. Une jeune femme l'aperçoit. Immédiatement, elle s'apitoie. « Oh, le pauvre enfant abandonné !» Puis elle le prend par la main. « Ça tombe bien, j'ai besoin d'un petit comme toi. » Rifouinfouin la suit car il a peur de la nuit. Dans la maison, il y a déjà un enfant. La jeune femme dit à Rifouinfouin, « Cet enfant est tout seul et il s'ennuie, alors joue avec lui. » Rifouinfouin propose plusieurs jeux, mais l'enfant ne s'y intéresse jamais. Alors la jeune femme gronde Rifouinfouin, « Pourquoi tu ne joues pas avec lui? Tu n'es pas vraiment gentil. » Rifouinfouin laisse passer la nuit, et au petit matin, il s'en va. Sur le chemin, il ramasse un bâton, et il entend soudain, « Mais c'est ma canne, ça! Eh, petit, rends-la-moi !» Rifouinfouin tend la canne au vieil homme qui est devant lui. Le vieil homme lui demande, « Que fais-tu là de si bon matin ?» Rifouinfouin dit qu'il a perdu sa maman, et des larmes coulent sur ses joues. Le vieil homme s'apitoie. « Oh, le pauvre enfant abandonné !» Il lui prend la main. « Ça tombe bien, j'ai besoin d'un petit comme toi. » et il l'emmène dans sa maison. Tout le matin, Rifouinfouin doit travailler. Il cire les souliers, il souffle sur le feu, il prépare les repas. Il apporte au vieil homme la canne, la pipe ou les lunettes qu'il perd tout le temps. Alors Rifouinfouin n'attend pas l'après-midi. Il s'enfuit. Il marche droit devant lui et soudain, ses pieds clapotent dans l'eau. Le chemin est inondé. Au bout du chemin, il y a le fossé. Et au bord du fossé, il y a Fariboulette. La sorcière pleure et pleure tant et tant qu'un lac se forme à ses pieds. Rifouinfouin lui saute dans les bras et il s'embrasse. Fariboulette dit « Je te promets, Rifouinfouin, maintenant, nous prendrons notre temps pour que tu puisses t'amuser quand je vais au marché. » Rifouinfouin sourit et il dit « Quand même, cette mer de larmes, rien que pour moi. » Fin de l'histoire. La lecture, c'est fini pour aujourd'hui. Ces quatre histoires vous ont plu et vous rendront curieux, je l'espère. On va gentiment se dire au revoir, les copains, avec un peu de musique. On se retrouve juste après cette chanson qui s'appelle « Lemon Tree ». Eh oui, comme le mot d'anglais du jour. Vous voyez, c'est facile.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee da dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you took.
Salut les kids, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 25 décembre, les enfants, le jour de Noël, avec une émission spéciale remplie de magie. À l'heure du repas, il y aura des histoires de Noël, des chansons et des comptines pour que vous profitiez de cette journée au maximum. D'ici là, c'est le moment d'envoyer votre liste au Père Noël. Il n'est pas encore trop tard pour lui demander des jouets, des livres, des bonbons, des chocolats, mais aussi de l'amour, de la joie et de la gentillesse. Profitez bien de votre mercredi, amusez-vous et on se retrouve dans 15 jours. Ciao les enfants. Salut les kids! C'était l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr.